France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City, Sandy in the house.
Haliam Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20.
Donald Trump en remet une couche ce soir, il faut l'aider à sécuriser le détroit d'Ormuz. Il s'adresse à l'OTAN, il s'adresse à nous, la France, il s'adresse au Royaume-Uni, au Japon, à la Corée du Sud. Pour l'instant, c'est non ou un silence poli. Faut-il sauver le soldat Trump? Y a-t-il un plan collectif qui nous éviterait de tomber les deux pieds dans la guerre? Cette guerre mettra-t-elle fin à la menace nucléaire de l'Iran? Il faut bien revenir à cette question, c'est celle de Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. Le reportage est en Hongrie, un mois avant les législatives qui donnent Viktor Orban perdant. Le Premier ministre appuie donc sur un nouveau ressort, Zelensky accusé de financer l'opposition.
Tout le monde veut la guerre, la destruction. Viktor Orban a raison de dire non. Et nous, on est derrière lui.
Un reportage de Florence Labruyère à découvrir autour de 18h42. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé l'Afghanistan au bord d'une catastrophe humanitaire sans précédent. On vous expliquera pourquoi. Et puis juste avant 19h, Cyril Sauvageau vous fera découvrir les Tribute Band, ces groupes qui ne jouent que des reprises. Ce sera la BO du monde, ça nous fera du bien. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
We strongly encourage other nations whose economies depend on the Strait for blood. I mean, they should be in here very happily helping us.
Nous encourageons vivement les autres pays dont l'économie dépend du détroit d'Ormuz à nous aider. Ils devraient même être ravis de nous aider, c'est ce que dit Donald Trump. C'était il y a moins d'une heure aux États-Unis. Il a ajouté aussi cette phrase que je vous soumets, Frédéric Ancel, et je vous salue d'ailleurs d'abord. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Il y a cette autre phrase du président américain. Ça fait 40 ans que nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose d'aussi mineur. Moi, il y a deux choses qui me frappent. D'abord, c'est l'argument, le sempiternel argument. J'ai envie de dire, on vous a tellement aidé, aidez-nous. Et puis il y a le quelque chose d'aussi mineur. Serait-il mineur d'envoyer des bateaux dans le détroit d'Ormuz?
Alors il y a deux points. Le premier, il est très technique, très statutaire, très officiel. Monsieur Trump a mal lu les textes fondateurs de l'OTAN. L'OTAN, en réalité, est une alliance défensive et non pas offensive. Et le fameux article 5 qu'on ressort perpétuellement, qui est un peu l'article mousquetaire, ça, si l'un des États est attaqué, les autres doivent non pas tout mettre d'ailleurs en œuvre, mais mettre ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent en œuvre pour le défendre, ça ne s'applique pas. Puisque là, très officiellement d'ailleurs, les États-Unis et Israël, qui est un cas à part, puisqu'évidemment Israël n'est pas partie prenante de l'OTAN, mais les États-Unis ont attaqué l'Iran. Bon, bah, les États-Unis sont un pays souverain, mais l'Iran n'a pas attaqué les États-Unis, en tout cas pas officiellement. Autrement dit, il ne peut pas statutairement s'en référer à l'OTAN en disant « Mais attendez, vous êtes de très mauvais camarades. » Après, sur...
En même temps, pardon, mais il s'en fiche. Enfin, je veux dire, depuis le début, de toute façon, il mélange les choses, l'OTAN contre les droits de douane, etc. Enfin, donc c'est pas très étonnant.
Vous avez raison. Non, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est une casuistique qui ne correspond pas. Cet argument n'est pas bon. Alors l'autre argument, effectivement, est plus intéressant et je le dis et je le répète et je l'ai dit d'ailleurs à votre micro il y a encore quelques semaines, c'est un mercantiliste absolu, Donald Trump. Et il considère effectivement que de manière générale, c'est vrai pour la protection, ce qu'il appelle la protection américaine du Golfe, c'était vrai à l'époque des pressions sur le Groenland, c'est vrai sur ces exigences que chaque État européen membre de l'OTAN passe de 2 ou 3 à 5% de son PIB en dépenses de défense. Il considère que depuis au moins 45, je l'ai entendu un jour remonter à 1917 quand même, que les États-Unis ont toujours beaucoup trop dépensé pour la protection des Européens et d'autres nations, notamment en Asie de l'Est. Et là, du coup, il reprend son sempiternel argument. Alors, ça vaut ce que ça vaut. J'ai envie de vous dire que oui, bah oui, les Américains ont défendu les Européens depuis 45, c'est pas faux. Mais en même temps, il oublie de dire que, moyennant quoi, les Européens, eux, ont acheté par centaines de milliards de dollars de matériel américain, et notamment les très coûteux chasseurs-bombardiers, depuis les années 50.
Alors, on sait ce que ça veut dire, on sait même ce qui peut mettre sur la table, à commencer par l'autre front, celui de l'Ukraine, tout ça, on a appris à le connaître, ce président américain. Je voudrais revenir à la deuxième partie de ma première question, si j'ose dire. Est-ce que, de toute façon, si on disait oui, si on amène un navire de guerre devant le détroit d'Ormuz, est-ce que ça peut être considéré comme une déclaration de guerre, en effet, en tout cas aux yeux de l'Iran, et donc nous mettre dans cette sorte de danger-là?
Oui, aux yeux de l'Iran, oui, très clairement. De toute façon, l'Iran n'a pas attendu qu'on envoie des bateaux de guerre, puisque, je me permets de vous rappeler que de l'Azerbaïdjan à Oman, c'est-à-dire du nord au sud, en passant par l'intégralité, je dis bien l'intégralité des États du Golfe, qui pourtant étaient neutres lors de l'attaque israélo-américaine, eh bien l'Iran a touché absolument tout le monde. Alors il est bien évident que les Iraniens considèrent, d'ores et déjà d'ailleurs, la France comme quasi-ennemi. Pourquoi ? On l'a bien vu.
Exactement, c'était la suite de ma question, on l'a déjà fait. Enfin, nous sommes déjà, de fait, sommes-nous, aux yeux de l'Iran, déjà un allié des États-Unis ou pas ?
Ah oui, ah ben bien sûr, un allié des États-Unis, pourquoi ?
Parce mais dans cette guerre, je veux dire.
Mais un trois quarts allié, pourquoi ? Parce que nous avons une base, et une base militaire très importante, aux Émirats Arabes Unis, qui est un État aussi allié des États-Unis. Nous avons une base aérienne en Jordanie. La Jordanie est un allié des États-Unis, et d'ailleurs la Jordanie est très hostile à l'Iran. Et donc, si vous ajoutez à cela cerise sur le gâteau que nous avons, ce qui n'a strictement rien à voir avec l'Iran, des hommes qui luttent aux côtés des combattants kurdes contre Daesh, situés donc dans une base située en Irak, et que, vous l'avez bien vu, des miliciens pro-iraniens ont très concrètement admis et revendiqué une attaque contre cette base qui malheureusement a fait un mort chez les soldats français. Vous voyez, donc Téhéran ne conçoit pas pour l'instant très officiellement la France comme ennemi, mais vous savez, dans les années 80, lorsqu'on subissait les attentats de la République islamique d'Iran à Paris, officiellement, on n'était pas ennemi. Hein.
Alors, deux choses, Frédéric Ancel. La première, c'est qu'est-ce que les Américains attendent de nous que la puissance américaine ne peut pas faire elle-même ? Est-ce qu'elle attend tout ça ? Ou est-ce qu'elle se dit finalement que escorter les pétroliers, parce que ça fait partie des missions qu'on est censé nous assigner, est-ce que les Américains se disent, nous, c'est sûr, on nous tirera dessus, donc c'est pas la peine. Mais en revanche, l'Iran ne tirera pas sur un bateau qui n'aurait pas les couleurs américaines. Est-ce que c'est ça l'idée ou pas ?
Non, alors ça, je ne crois pas que Donald Trump aille jusque-là. Moi, je pense que qualitativement, les Américains peuvent tout, mais pas quantitativement. Il faut comprendre qu'avant la guerre, plusieurs dizaines de supertankers et plusieurs dizaines de méthaniers, donc des bateaux transportant du gaz naturel, passaient quotidiennement sur les deux rails maritimes. Ça fait beaucoup. Et même si les deux flottes américaines situées sur ce théâtre d'opération, sont très importantes. D'abord, une grande partie sert de manière offensive un rythme pluricotidien à frapper des cibles en Iran, d'une part. D'autre part, le reste des navires servent à protéger des bases américaines déjà situées dans la région. Si en plus de ça, il faut s'amuser à aller escorter
Mais du coup, qu'est-ce qu'il attend de nous qu'il ne peut pas faire lui-même, en fait ?
Du quantitatif. C'est-à-dire qu'en fait, des navires seraient escortés par d'autres pays, tandis que les navires américains déjà en phase offensive face à l'Iran pourraient continuer à faire leur boulot.
On a bien vu qu'un navire pakistanais est passé ce matin, notamment, ce qui semble accréditer le fait qu'il y a des pays qui discutent directement de toute façon avec l'Iran. Semble-t-il des Chinois sont passés aussi, qui probablement aussi discutent avec l'Iran. C'est aussi pour ça, j'imagine, que notamment un pays comme la Chine n'ira certainement pas suivre les directives, entre guillemets, de Donald Trump. On s'arrange de pays de gré à gré en ce moment. C'est bien ça qui se passe dans ce
détroit. Oui, absolument, avec une dimension qu'il ne faut pas négliger, c'est que en ce moment, l'Iran joue sa jugulaire. Je veux dire par là que, sauf Epsilon, la totalité des devises gagne en quelque sorte, que rapporte l'Iran aujourd'hui dans son économie, c'est le pétrole que cet État vend à des pays comme l'Inde, comme la Chine, alors principalement la Chine d'ailleurs, hein, dans une moindre mesure le Pakistan. Autrement dit, si l'Iran décidait de frapper absolument tout ce qui entrait, tout ce qui sortait dans le détroit, les Américains auraient beau jeu dire, puisque c'est comme ça, nous aussi, nous allons bloquer mais vos propres bateaux et nous allons frapper ou envahir, entre parenthèses, la fameuse île de Karg, ce qui d'ailleurs n'est pas impossible dans les prochaines semaines.
Ce que ça veut dire, c'est que, alors vous l'avez dit, c'est sa jugulaire, mais c'est aussi son levier de négociation à l'Iran, ce détroit d'Hormuz. Est-ce que c'est aussi à ça qu'on sert, nous, je nous ramène à l'Europe, Frédéric Ancel, est-ce qu'on sert à ça à ce moment-là ? C'est même ce qu'on voulait probablement au départ, c'est de se dire qu'on était là quand on commence à négocier, et notamment négocier des choses autour de ce détroit, non ?
Oui, c'est juste, mais alors ça, c'est pour la phase d'après.
Mais certes,
la négociation, ça fait partie du politique, et le politique, ça s'inscrit après. Ça ne veut pas dire que on ne négocie pas du tout. Mais pour l'instant, on négocie de manière extrêmement technique. Tel bateau ici, telle base là, tel type de, par exemple, de prisonniers potentiels, mais certainement pas du politique lourd et large, en quelque sorte.
Parce que jusqu'à présent, nous, on n'a pas dit grand-chose. Alors, visiblement, quelque chose quand même, puisque Donald Trump pense que la réponse d'Emmanuel Macron n'est pas parfaite, fermez les guillemets, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Starmer a dit non, mais quand même en disant, mais on peut peut-être essayer de trouver une ouverture de quelque chose. Il y a beaucoup de pays de l'OTAN, pour le coup, qui ont dit non, mais ça, effectivement, c'est pas notre affaire. Quelle serait la différence entre sécuriser le détroit d'Hormuz et ce qu'on fait en mer Rouge, par exemple, qui existe déjà ? Ça s'appelle la mission Aspides, que moi j'ai découverte en préparant cette émission. Aspides, en mer Rouge, protège les navires marchands. C'est quoi ? Est-ce qu'on peut faire une Aspides dans le détroit d'Hormuz ?
À ceci près que, alors d'abord, il y avait Atalante, qui d'ailleurs, entre parenthèses, c'était une mission européenne. Hein, c'est l'une des premières, hein, c'était très intéressant. Mais, et Aspides, mais sert surtout à chasser les pirates. Mmh. Alors, les pirates, ils sont extrêmement antipathiques, mais ça ne correspond pas à la capacité de nuisance exceptionnelle des milliers de drones chaïds produits par l'Iran et propulsables, et propulsés d'ailleurs en ce moment, sur l'ensemble du détroit. Autrement dit, si vous voulez, cette mission en mer Rouge, elle s'inscrit dans un cadre pacifique. Donc il s'agit de lutter contre la criminalité ordinaire, en quelque sorte. Hein. Et alors, c'est vrai que les Houthis aussi, hein, donc des rebelles yéménites pro-iraniens, à plusieurs reprises ces dernières années, ont démontré qu'ils avaient aussi une capacité de nuisance. Mais pour l'essentiel, il s'agit de chasser le pirate. Là, dans le Golfe, on est réellement sur une guerre de moyenne haute intensité. Donc ce serait réellement, ce ne serait pas seulement de la surveillance et du défensif, ce serait aussi de l'offensif face à des armes iraniennes.
Est-ce que Trump est en train de nous dire, sans nous le dire évidemment, qu'il est coincé, en fait. Est-ce que c'est ça qu'il est en train de nous dire ? Je suis coincé dans cette guerre, je n'y arrive pas. Le détroit d'Hormuz, c'est un problème, au secours.
Eh ben, j'ai pas le sentiment. Moi, je pense que, à la fin des fins, il considère que cette guerre est en train de coûter tant aux États-Unis et que ça coûterait un peu moins cher s'il y avait d'autres États qui prenaient un peu leur écho, qui prenaient leur fardeau, qui assumaient leur fardeau en quelque sorte. Parce qu'encore une fois, hein, je voudrais pas me répéter, mais c'est d'abord un mercantiliste. C'est quelqu'un qui calcule, c'est quelqu'un qui compte. Et de ce point de vue-là, je ne pense pas que ce soit que la préoccupation strictement militaire, à laquelle d'ailleurs il ne connaît pas grand-chose, soit réellement primordiale.
Donc il n'est pas empêtré du tout. Les problèmes de munitions, il va les gérer. Il n'y a aucune forme de je n'en vois pas la fin et je veux effectivement partager ce fardeau du coup parce que je n'en vois pas la fin.
Non, moi je ne crois pas. D'abord parce qu'on n'est que, entre guillemets, que à deux semaines et demie de guerre. Nous, on est tous extraordinairement pressés à notre époque et en réalité, les guerres ne s'arrêtent que très exceptionnellement au bout d'une, deux ou trois semaines, y compris les guerres modernes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand on dit mais les États-Unis ont déjà... cette guerre a déjà coûté plusieurs dizaines de milliards. Mais pardon, les Américains produisent des armes, produisent des bateaux, produisent des munitions. Et puis, la crédibilité de des armes qui sont projetées ou des munitions projetées contre l'Iran, ça va inciter un certain nombre de clients d'acheter plus tard ce type d'armement. Et enfin, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers travaillent quotidiennement aux États-Unis, en fait je devrais dire plusieurs centaines de milliers, travaillent quotidiennement aux États-Unis à la réparation ou plus exactement à la fabrication de ces armes. Ben, ça, si vous voulez, c'est plutôt entre guillemets relativement favorable à l'économie américaine. Cerise sur le gâteau, un pétrole qui monte, le prix du baril qui monte, je me permets de rappeler à vos auditeurs, mais ils le savent, que le premier producteur au monde
bien
de pétrole,
ce sont les
États-Unis.
Qu'est-ce qu'il essaye de dire à la Chine, du coup, dans ce contexte-là, Donald Trump, puisqu'il le met dans le même lot, il dit les Européens, l'OTAN, et puis aussi la Chine. On sait ce que ça veut dire économiquement, le détroit d'Hormuz pour la Chine, ça, on ne le découvre pas. Mais qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, là, aux Chinois ?
Il est en train de leur dire, vous êtes des adversaires systémiques, d'ailleurs, tous les présidents avant lui, depuis Bush fils, à la fin des années 90 le disait, vous êtes des adversaires systémiques, vous étiez en train de l'emporter sur le plan économique et énergétique, mais regardez, le levier sur le pétrole vénézuélien, c'est nous maintenant qui l'avons. Le levier sur le pétrole iranien, c'est nous maintenant qui l'avons. Donc, il va falloir négocier sérieusement. Et je dis ça parce que dans quelques jours, en principe, Trump doit rencontrer Xi Jinping.
Alors, il a mis cette rencontre, effectivement, sur le fil en disant, si vous ne m'aidez pas, j'y vais pas. C'est la dernière question. Est-ce qu'on peut considérer même que c'était l'un des buts de guerre de Trump en jouant le billard à plusieurs bandes? Je vais en profiter pour couper la Chine de ses approvisionnements et ce sera tant mieux.
Eh bien oui, moi je pense que c'était l'une des variables de prise de décision, pas la primordiale, parce que la primordiale d'ailleurs, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est vraiment le nucléaire, mais en variable secondaire parmi les principales, je suis absolument convaincu qu'il y a effectivement l'aspect chinois.
Bah écoutez, la variable en tout cas est sur la sellette là maintenant. Frédéric Ancel, merci beaucoup.
Merci à vous.
À très bientôt bien sûr dans Un jour dans le monde. Et la suite c'est vous, Louise Baudet, vous remettez le monde à l'endroit, au même endroit d'ailleurs.
Question très optimiste ce soir encore, y aura-t-il bientôt une nouvelle Corée du Nord au Moyen-Orient ?
Allez, à tout à l'heure, c'est juste après ça.
Kill me, can't get much stronger. Find another.
Hayley Williams, la chanteuse du groupe punk Paramore, en solo dans la playlist d'Inter avec Kill Me. Le monde à l'endroit, c'est Louise Baudet.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et cette question, Louise, l'Iran sera-t-elle bientôt le 10e pays du monde à disposer de l'arme nucléaire? Vous nous expliquez pourquoi. La menace est loin d'être écartée. Une opération commando serait même envisagée.
Et le scénario est digne d'un blockbuster américain. Des unités d'élite US du commandement des opérations spéciales interarmées qui infiltrent physiquement les tunnels où l'uranium est caché. Ces dizaines, ces centaines de kilos d'uranium enrichi, clé de fabrication de la bombe iranienne, toujours enfouie dans les sous-sols du pays à plus de 200 mètres sous terre, stockés sous forme de gaz dans des cylindres de métal qui ressemblent à des bonbonnes d'oxygène. Le scénario paraît complètement fou, mais depuis le spectaculaire enlèvement de Nicolas Maduro au cœur du Venezuela début janvier, qui se risquerait à exclure quoi que ce soit? Certains ont même fait leurs calculs. Le stock d'uranium tiendrait dans les coffres d'une dizaine de voitures.
L'opération est quand même extrêmement risquée, Louise, d'abord parce qu'elle comporte plusieurs inconnus.
Oui, où se trouvent précisément les 450 kilos d'uranium d'abord. La moitié serait toujours dans les sous-sols de l'usine de Natanz, près d'Ispahan. Le reste étant dispersé sur d'autres sites afin de compliquer les recherches. Israël et les États-Unis affirment que rien ne peut leur échapper. Aucun mouvement dans ou autour de ces sites, mais le doute persiste. Par ailleurs, l'opération commando nécessiterait une totale maîtrise du ciel sur une large part du pays et le déploiement de milliers d'hommes en appui des forces spéciales sans que les Américains puissent compter sur un quelconque effet de surprise. L'opération a d'ailleurs été envisagée puis écartée en juin dernier, trop risquée aux yeux de l'état-major américain, trop similaire aussi à la tentative de libération des otages de l'ambassade américaine à Téhéran, c'était en 1980. Échec cuisant, humiliation même qui hante le président américain et qui n'est pas étrangère au déclenchement de l'offensive contre l'Iran.
Alors cette histoire de commando, c'est une opération de la dernière chance?
C'est en tout cas le signe que les options sont limitées pour Donald Trump. Brandir cette prise de guerre, exhiber ce trophée lui permettrait de justifier la fin d'une guerre impopulaire, beaucoup plus coûteuse qu'il ne l'avait imaginée. Il ne parvient pas à renverser le régime iranien, pas grave, puisque c'est le nucléaire qui était visé. L'absence d'objectifs clairs présente cet avantage de pouvoir en changer. Mais une guerre achevée trop tôt, c'est aussi la menace d'un régime qui survit et se durcit. Un régime qui ferait du nucléaire son assurance-vie et irait à la bombe sans plus se soucier du candidaton mondial. Alors, quelles sont les intentions du nouvel ayatollah? La dissimulation étant une arme stratégique, notamment en matière nucléaire. En tout cas, un programme clandestin enterré pour se doter d'une bombe rudimentaire, cela ne nécessite que quelques mois et quelques dizaines de mètres carrés. Pas facile à repérer à 200 mètres de profondeur.
Et cette menace de relance du programme nucléaire iranien, elle est agitée par les tenants de la négociation?
Oui, la négociation, vue comme unique moyen de contraindre l'Iran à renoncer à la bombe pour ne pas avoir une nouvelle Corée du Nord protégée des attaques extérieures grâce à la dissuasion. À ce titre, un accord, même imparfait, sur le programme nucléaire iranien aurait été préférable, quoiqu'au prix de discussions longues, ardues, techniques, pas le genre de Donald Trump. La guerre est donc déclarée et ce n'est pas le moindre des paradoxes de voir les tenants de la négociation qui ne voulait pas de ce conflit, craindre désormais de le voir trop tôt terminé.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde est en Hongrie. Ce soir, nous sommes à moins de 4 semaines des élections législatives. Ce sera le 12 avril et le Fidesz, le parti de Viktor Orban, est donné perdant. Alors plan B pour le Premier ministre hongrois, il lui faut un bouc émissaire, ce sera l'Ukraine et Volodymyr Zelensky, accusé de financer l'opposition hongroise avec la complicité de Bruxelles. Plus encore, Zelensky forcerait les Hongrois à aller se battre aux côtés de l'Ukraine. Il les dépouillerait pour financer sa guerre. Votez pour moi, je vous protégerai. C'est le programme électoral de Viktor Orban. Les messages anti-Ukraine inondent la Hongrie. Et le reste, c'est Florence Labruyère qui raconte.
Une petite fille qui pleure et qui demande quand son père reviendra de la guerre. C'est avec cette image que débute une vidéo de la campagne électorale du Fidesz, le parti de Viktor Orban. Dans ce film réalisé par intelligence artificielle, le père de la fillette est exécuté à la guerre. Les yeux bandés, il est froidement abattu par un officier dont l'uniforme rappelle celui des nazis. Ce n'est qu'un cauchemar pour l'instant, mais Bruxelles se prépare à en faire une réalité, dit le commentaire. Le 12 avril, ne prenons pas de risques, le Fidesz, c'est le choix sûr. Le message est clair, voter pour l'opposition hongroise, c'est voter pour un agent à la solde de Bruxelles qui veut forcer les Hongrois à aller se battre aux côtés de l'Ukraine. Ce scénario est une pure invention du parti au pouvoir, mais András, un ingénieur à la retraite, y croit dur comme fer.
Il y a un très grand danger qu'on soit entraîné dans la guerre. Et nous, on veut la paix.
Mais qui menace la Hongrie ?
Eh bien, si l'Ukraine intègre l'Union européenne trop rapidement sans remplir les conditions, nous, les Hongrois, nous serons entraînés dans la guerre.
Mais l'Union européenne n'a pas le pouvoir de mobiliser des troupes, ce sont les États membres qui décident.
Non, pas du tout. Le Conseil et le Parlement européen ont déclaré qu'ils veulent la guerre. Ils ne se préparent pas à la paix.
Dans tout le pays, le long des routes, sur les abribus, on voit des affiches géantes postées par le gouvernement Orban. Une affiche montre l'opposant Péter Madiar et la présidente de la Commission européenne en train de jeter des liasses de billets dans des toilettes qui brillent comme si elles étaient en or. L'affiche laisse entendre que ces toilettes sont celles du président ukrainien. Et le slogan dit « Pas question que l'argent des Hongrois finance la guerre en Ukraine ». Ferenc, qui est menuisier, est tout à fait d'accord.
Tout le monde veut la guerre, la destruction. Viktor Orban a raison de dire non. Et nous, on est derrière lui.
Et Viktor Orban ne se lasse pas de répéter sur toutes les plateformes que le parti d'opposition veut la guerre et qu'il est financé par l'Ukraine. Mais la propagande ne convainc pas tout le monde. La semaine dernière, la police hongroise a arrêté des convoyeurs de fonds. Ils transportaient des espèces de l'Autriche vers l'Ukraine via la Hongrie. Un transport tout à fait légal, mais les médias pro-Orban l'ont présenté comme une opération de la mafia ukrainienne qui financerait l'opposition hongroise. Andrea, une jeune prof de musique, n'en croit pas un mot.
It's a shit, it's a bullshit.
C'est des conneries tout ça. Les vrais Hongrois n'y croient pas.
Real Hungarian people doesn't believe it.
Marta, elle, prend les choses avec moins de légèreté. Elle ne supporte plus cette campagne contre l'Ukraine.
J'ai honte d'être hongroise. L'Ukraine se bat depuis des années pour garder sa liberté et son indépendance. C'est vraiment une honte.
Marta espère une victoire de l'opposition aux élections, mais elle a peur que Vladimir Poutine interfère dans le scrutin pour aider son ami Viktor Orban à se maintenir au pouvoir.
Florence Labruyère pour le reportage. Florence, merci beaucoup et bien sûr à très vite. Dans le quart d'heure qui vient, on plonge d'abord avec vous, Guillaume Audaz, sous les radars de l'actualité internationale. Et qu'est-ce qu'on y trouve ?
La visite d'un ministre kényan au Kremlin qui veut empêcher l'enrôlement forcé dans l'armée russe de ses concitoyens.
Et la BO du monde, Cyril Sauvageau.
Ce soir, le business des tribute bands, ces groupes de reprises de Pink Floyd, ABBA ou les Doors. La nostalgie n'a jamais si bien marché.
Allez, restez avec nous, les amis. Le tour de la planète, ce n'est pas fini. Il passe par l'Écosse et la Thaïlande. Ce sont les deux origines d'Hélène Gagna. Le morceau s'appelle Down Orc. C'est une expression, figurez-vous, qui est utilisée, paraît-il, dans sa famille thaïlandaise pour décrire un étranger. Ben voilà, vous savez tout, c'est le choix musical de Djoubaka ce soir. s'appelle Hélène Gagna, Barn Ork, c'est le titre et c'est sur France Inter. Et dans Un jour dans le monde, le voilà émergeant de dessous les radars. Un peu décoiffé quand même, c'est Guillaume Audin.
I am in a danger zone because there is like 50 drones.
Et cette voix, c'est celle d'un Kenyan à l'abri des drones ukrainiens. Et pour cause, il a été enrôlé dans l'armée russe.
Oui, et l'extrait qu'on a entendu provient d'une vidéo postée sur TikTok par ce même homme après son retour de Russie il y a quelques semaines. Duncan Cheguet, c'est son nom, avait été enrôlé l'année dernière contre son gré dans une section d'assaut russe, alors qu'au départ, il avait été recruté pour un poste de chauffeur à Moscou. Alors si lui a pu être rapatrié au Kenya, c'est parce qu'il a prétendu être atteint d'une maladie mentale, mais il aura laissé, raconte-t-il, plusieurs de ses compatriotes derrière lui, dont certains ont été abandonnés sur le front après avoir été tués. Cette histoire, c'est aussi celle de centaines d'autres Kenyans recrutés par des agences frauduleuses, apparemment pour le compte du Kremlin, à qui le chef de la diplomatie kenyane entend demander des explications. Mousadia Mousavadi est à Moscou ce lundi. Il ne cherche pas la confrontation, surtout pas, a-t-il souligné, mais veut obtenir d'autres rapatriements, quand de son côté, l'armée russe cherche en Afrique de la chair à canne.
Afghanistan could again become a driver of regional and global instability.
L'Afghanistan pris en étau une fois de plus, où l'ONU redoute désormais une catastrophe humanitaire.
Oui, cette fois, c'est le Programme alimentaire mondial qui alerte. L'instabilité persistante dans ce pays, je cite, poussera des millions de personnes à souffrir, plus encore de la faim, confrontée par l'armée pakistanaise sur son flanc est depuis la fin du mois de février, mais également bousculée par les secousses de la guerre en Iran sur sa frontière ouest. L'Afghanistan doit absorber des déplacements massifs de réfugiés sur son propre territoire, où la moitié de la population dépend déjà de l'aide humanitaire pour survivre. Ces deux crises régionales, l'Iran et le Pakistan, viennent en réalité amplifier un problème nettement plus profond. Selon la mission d'assistance des Nations Unies, Kaboul, sous le joug des talibans, est isolé depuis 5 ans. Les sanctions, la paralysie du système bancaire et l'effondrement de l'aide internationale ont plongé l'économie dans la tourmente, le chaos. La politique des talibans, et notamment évidemment envers les femmes, complique toute perspective de normalisation. Mais malgré cette accumulation de crises et des opérations humanitaires largement sous-financées, l'ONU dit vouloir maintenir coûte que coûte sa mission sur place.
Pour nous, c'est un jour de joie, un jour aussi d'émotion et un jour de retrouvailles.
En Côte d'Ivoire, c'est l'histoire du tambour parleur, Guillaume, qui vient enfin de retrouver les siens.
D'abord, Fabienne, se figurait l'objet, 3,50 m de long, 430 kg, une parure somptueuse de bois sculpté, des couleurs et des ornements mystiques avec une sorte de divinité. C'est un tambour extraordinaire, un tambour sacré qui a retrouvé ce week-end la terre de ses ancêtres, une pièce majeure du patrimoine ivoirien, restituée après 4 ans d'intenses discussions diplomatiques, mais surtout après plus d'un siècle d'exil en France. Cet instrument avait été pillé par l'administration coloniale en 1916. Il avait été montré à Paris, au musée du Trocadéro, avant de rejoindre celui du Quai Branly, le musée Jacques Chirac, où il avait été restauré en 2022. Alors, pourquoi tambour parleur, me demanderez-vous ? Eh bien, parce qu'il donne des informations sur le positionnement des ennemis dans la forêt et leur capacité militaire. Il fonctionne un peu comme un satellite. Dixit, le porte-parole de la communauté Bidjan, qui cite la tradition du peuple ébrié, une des mythologies du continent africain. Ce tambour, utilisé pour transmettre des messages rituels, est le premier objet d'une liste de 148 œuvres que la France va enfin pouvoir restituer. Il sera bientôt exposé au Musée des civilisations d'Abidjan et franchement, il vaut le voyage en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup Guillaume Oda et à demain. Le lundi, Cyril Sauvageau écoute la musique que fait le monde en tournant. Parfois ça grince, mais parfois non. C'est la BO du monde.
France Inter, le 18-20.
Et la BO du Monde consacrée ce soir, Cyril, au phénomène des tribute bands, ces groupes de reprises de Queen, des Beatles, de Jean-Jacques Goldman qui cartonnent sur les scènes françaises. Moins, c'est 30% de la programmation des Zéniths. Ah, oui. C'est beaucoup de monde. En France, la tendance est assez récente, mais dans le monde anglo-saxon, c'est une tradition, qui est bien ancrée.
Et oui, et il se trouve qu'un des poids lourds de la discipline est en tournée française cette semaine. The Australian Pink Floyd Show, un groupe très professionnel, qui déploie les grands moyens depuis 30 ans pour faire revivre les grandes heures de Pink Floyd en concert, et on s'y croirait.
Oh,
L'Australie, c'est là-bas que le phénomène des tributes a démarré dans les années 90. Pourquoi l'Australie ? Eh bien peut-être parce que ce pays du bout du monde a souvent été laissé à l'écart des tournées mondiales. Alors, faute de pouvoir applaudir leurs idoles en chair et en os, les Australiens ont monté leur propre groupe de reprises avec un souci du détail hors du commun. Ça, c'est Bjorn Again, les chansons de ABBA rejouées à la note près dans un spectacle digne des années disco. Bjorn Again, c'est un peu la quintessence du tribute band, c'est ultra pro, c'est assez crédible, ça marche. Ils sont capables de remplir des stades et de jouer dans les plus grands festivals. Le public français a longtemps boudé ce phénomène des tributes, perçu comme un peu ringard, mais les anglo-saxons ont toujours adoré ça. En outre-Manche, on ne compte plus les tributes de Queen ou d'Oasis. Et que dire des États-Unis ? Là-bas, tous les grands noms du rock ont leurs clones qui pullulent. Rien que dans l'état du Massachusetts, on compterait aujourd'hui plusieurs dizaines de groupes de reprises de Grateful Dead, la légende californienne des 60s, autant dire que la concurrence est rude.
C'est saturé, Cyril, tout est bon hein, pour se distinguer.
Et si certains poussent très loin le mimétisme jusqu'à ressembler à des sosies, d'autres choisissent l'humour ou la parodie pour sortir du lot. Citons quelques exemples. Gacy DC, le premier groupe de reprise d'ACDC 100% homosexuel. Beatalica, qui joue des chansons des Beatles à la manière de Metallica.
C'est légal.
Ou encore Minikiss. Minikiss, maquillage et costume, tout y est. Voici le seul et unique tribute band de Kiss constitué de personnes de petite taille.
Et désormais même, Cyril, des groupes déjà connus se lancent dans le business de la nostalgie.
C'est un phénomène assez nouveau et ça nous dit beaucoup de l'état du marché de la musique. On commence à voir des groupes établis qui renoncent à jouer leur répertoire, leurs propres chansons, parce qu'il est bien plus rentable de faire de la reprise. En Angleterre, la trajectoire du groupe Field Music fait beaucoup parler. Field Music, c'est un groupe pop-rock qui a derrière lui 20 ans de carrière, plusieurs albums, des tournées, des critiques élogieuses dans la presse musicale. Ça ressemble à ça. Le chanteur David Bruce et ses musiciens ont décidé de jeter l'éponge parce qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Pour réussir à payer leurs factures, ils ont préféré se transformer en tribute band des Doors, qui était un de leurs groupes préférés. Ils s'appellent donc maintenant The Fire Doors et depuis, il faut reconnaître, ils gagnent bien mieux leur vie. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Throw the throne like a dog without a bone and actor alone riders on the storm.
Voilà, il faut bien manger en même temps, hein. On ne peut pas leur en vouloir.
Y a-t-il un tribute à Véronique Sanson ? Est-ce qu'il y a un tribute à Véronique Sanson ?
Un groupe tribute, non, mais plein de gens ont repris du Véronique Sanson avec beaucoup moins de talent, mais quand même un petit peu. Cyril, merci beaucoup.